en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le Bureau des Longitudes recevait en octobre 2009 Pierre Morel, fondateur du laboratoire de météorologie dynamique au CNRS et ancien secrétaire du Programme mondial de recherche sur le climat. Pierre Morel expose au cours de sa conférence l'avancée des connaissances scientifiques en matière de changement climatique avec à la clé des statistiques, des chiffres et des moyennes qui sont, comme il le rappelle, toujours à prendre avec des pincettes. Car si les informations paléoclimatiques donnent des pistes de recherche, elles ne sont en aucun cas des explications. Tout de suite, Pierre Morel.
Bon, alors je vais vous parler du climat. C'est un sujet dont tout le monde parle, plus ou moins à tort et à travers. Et par conséquent, il est souhaitable de donner quelques définitions. Alors, si, pour les anciens, les Grecs, par exemple, le climat avait une notion, c'est une notion très simple, une notion que, géographique essentiellement, c'est-à-dire statique. Ça vient, comme vous savez, le mot climat vient de clima clino, qui veut dire inclinaison, incliné, si vous voulez. Climat étant le masculin, d'après ce que j'ai compris, clino le féminin ou l'inverse. J'en sais rien. Bon. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est très clair. Pour les Grecs, c'était les caractéristiques d'un endroit, d'un site, les conditions d'environnement d'un site. En fonction de l'altitude et surtout de la latitude, c'est-à-dire de l'inclinaison moyenne des rayons du soleil. Bon, ceci d'ailleurs, cette notion statique, si vous voulez, allait assez bien avec l'image qu'on avait de l'univers. Un univers éternel, sous l'œil plus ou moins bienveillant de Dieu immortel, qui faisait marcher les choses de temps à autre avec un petit accroc. Bon, alors, évidemment, cette notion statique était très pratique, simple. En plus, elle collait assez bien avec la période, puisqu'elle correspond à une espèce d'optimum climatique quasiment stationnaire qui n'a pas changé tellement depuis les Grecs jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et c'est pour ça que pour les Grecs, pour les Romains, pour les gens du Moyen-Âge, l'éventualité d'un changement climatique était le dernier de leurs soucis. Alors vraiment le dernier. Bon, il y avait beaucoup d'autres soucis. Je veux dire. Bon. Plus tard, si vous voulez, un peu plus tard, c'est-à-dire vers les années 1500, 1600, les affaires se sont un peu gâtées. C'est-à-dire que les gens qui étaient, en Europe en particulier, ont vu des signes, si vous voulez, inquiétants d'un changement de cet environnement qu'on croyait stable, si vous voulez. En particulier dans les vallées alpines, les langues de glace qui descendent des montagnes se sont avancées, commençaient à s'avancer sérieusement, au point de menacer les champs, puis les maisons, enfin les villages. Alors devant cette menace, on a fait recours aux grands moyens. On a fait organiser des processions avec la croix et la bannière, au sens strict. Oui, alors ça a marché. Effectivement, depuis ce temps-là, les glaciers sont en récession, enfin du moins se retrouvent en retrait. Bon, alors, récemment, nous sommes confrontés à des avertissements, des indices tout aussi, substantiels, si vous voulez, portentous, diraient nos amis américains. On voit par exemple les glaces polaires, les glaces de l'Arctique, si vous voulez, les glaces de mer, de la banquise de l'Arctique, reculer régulièrement depuis 30 ans. Et on le sait très bien parce qu'on observe avec des satellites depuis 30 ans, donc on sait voir, on va très bien reculer la glace. La glace l'été en tout cas, l'hiver. Bon. Alors, face à ces avertissements, si vous voulez, inquiétants, nous avons eu recours aux mêmes moyens, c'est-à-dire qu'on a organisé des grandes réunions, j'appelle ça des messes politico-médiatiques, à Rio de Janeiro, à Kyoto, à Bali, autre endroit. Et on peut espérer, si vous voulez, que ce que j'appelle ces processions aéroportées auront le même effet heureux que celles de nos ancêtres. Hein. Donc, vous voyez, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Et il a donné lieu à un folklore assez important. Donc, premièrement, le climat est un phénomène global. Ça, c'est un point essentiel qu'il faut avoir en tête, parce que quand on est météorologiste, on sait par exemple que les avatars de la circulation atmosphérique de l'hémisphère sud perturbent la circulation de l'hémisphère nord en une période de temps de quelques jours, 4 jours. C'est pour ça que quand on fait une prévision à 72 heures, M. Lebeau vous dira qu'on prend un modèle global. On ne peut pas prendre un modèle hémisphérique, ça ne marche pas. au bout de trois jours, il faut un modèle global. Sinon, on a les perturbations qui émergent, si vous êtes l'hémisphère sud, perturbent l'hémisphère nord. Si on parle de climat, il va falloir prendre en compte des interactions à l'échelle planétaire. Pas moyen d'éviter. Hein. Il n'y a pas de climatologie à Romorantin. Il y a le climat planétaire. Voilà. D'un seul coup, on est confronté à une énorme complexité, si vous voulez. Mais je dirais que d'un certain point de vue, c'est pratique, parce que comme tout est relié à tout, les mesures que l'on ferait en un point vous donnent déjà une assez bonne idée de ce qui se passe ailleurs, quoi. On sait ce qui se passe ailleurs, on peut deviner ce qui se passe ailleurs, sur la base de mesures locales, d'une mesure locale, d'une série de mesures, évidemment. En effet, si on allait sur Vénus, par exemple, il suffit de poser une sonde planétaire sur Vénus, une, et on en déduit tout de suite un tas de choses sur la façon dont fonctionne l'atmosphère, de quoi il est fait, etc. Bon, enfin, on comprend beaucoup de choses sur la base d'une seule mesure, d'une seule série de mesures. De même sur Mars. De même sur la Terre, d'ailleurs, quand il s'agit d'aller reconstituer ce, le temps qu'il faisait ou le climat, il y a 1 million d'années. Il y a 1 million d'années, nous n'y étions pas pour aller voir. Et par conséquent, des informations relativement ponctuelles, en particulier sur, tirées dans une large mesure de carottes du continent antarctique, nous renseignent tout de suite sur les variations probables de température planétaire, enfin, l'indication en tout cas, la quantité de gaz carbonique qui était présente dans l'atmosphère, la quantité de méthane, etc. On a tout de suite un tas d'idées sur la base d'une mesure locale, une seule. Mais ces informations reconstituées, paléoclimatologiques, sont très indicatives. Elles nous donnent des idées, des pistes de recherche. On se dit, ah oui, on va trouver quelque chose. Enfin, allons voir ça, parce qu'on voit une variation qui nous donne des idées. Mais elles n'ont pas de caractère explicatif. Je n'ai encore jamais vu l'explication réelle physique d'un phénomène climatologique fondé sur des données paléoclimatiques. Jamais. Il y a toujours une indication, une base sur laquelle on peut réfléchir. Mais ce n'est pas une explication quantitative. Comme comprend un physicien, c'est-à-dire un mécanicien des fluides. Hein, il nous faut des détails. Bon. Donc voilà, nous avons un phénomène planétaire qui n'est pas très facile d'absorber. Mais enfin, néanmoins, puisque c'est planétaire, global, puisque enfin, la première approche d'un phénomène global, c'est de faire la moyenne, c'est-à-dire de prendre ça comme un total, si vous voulez. Alors, il est clair que le climat de la Terre dépend du bilan des échanges radiatifs, des échanges d'énergie, essentiellement, entre la planète, entre le Soleil, la planète et l'espace. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil, et puis fait quelque chose avec, il y a un moteur qui tourne, et puis il y a une réémission dans l'espace sous forme d'infrarouge. Bon. Et par conséquent, on peut prendre pour commencer, si vous voulez, pour aborder le fonctionnement de ce système, on peut prendre des moyennes planétaires de flux d'énergie dont le résultat total, la composante totale finalement, doit faire un bilan qu'on espère proche de zéro et qui nous renseigne sur quelques idées sur les phénomènes qui ont lieu. La NOAA vient de publier une climatologie de la température sur le territoire des États-Unis. C'est juste là maintenant. Et bon, c'est un cas idéal, un cas d'école, si on peut dire, parce que c'est un territoire qui est grand. Il y a un grand intérêt pour les sciences et les techniques. Par conséquent, on avait un large corps d'observateurs, plus ou moins volontaires ou semi-professionnels. Il y avait un organisme, un Weather Bureau, un service météorologique, qui s'occupait de gérer ce système, si vous voulez, ce réseau. Bon, ce centre unique propose des règlements et des méthodologies standards. Et bien, malgré tout, il y a des tas d'erreurs. Premièrement, en une station donnée, quand on change quelque chose, un appareil par exemple, ou l'exposition, etc., on a des sauts qui peuvent être instantanés. Bien sûr, on change l'appareil, ça peut être 1 degré, 1,5 degré, plus ou moins, en plus ou en moins. Donc il faut corriger ça. Quand on le sait qu'il y en a eu un, donc on fait la correction par comparaison aux voisines. Mais il y a aussi des biais systématiques. Par exemple, au début, à l'époque de l'exploration de l'Ouest, si vous voulez, les gens faisaient ces mesures-là plutôt l'après-midi. Bon. Et puis après, pour des raisons diverses d'utilisation de ces informations dans la journée, on s'est mis à les faire le matin. Ben, en passant progressivement de l'après-midi au matin, et j'entends vous dire que ça fait un sérieux changement de température de l'air à la surface de la Terre. Il faut corriger ça. Alors, aux États-Unis, la personne qui corrige ça, c'est M. Tom Carl. Bon, M. Monsieur Thomas Carle est un spécialiste de climatologie, il adore faire des formules qui permettent de corriger les différents trucs, etc. Bon, d'accord. Mais bon, le résultat net, c'est une banque de données qui représente la climatologie sur les États-Unis continentaux, la masse continentale. Alors, avec toutes ces corrections, on obtient un champ assez régulier, assez homogène, si vous voulez, c'est à peu près partout pareil. Et puis, on voit un réchauffement progressif qui monte à 0,6 degrés en un siècle. Bon, mais sur ce 0,6 degrés dans un siècle, il y en a 0,4 qui sont des corrections. Ah bah oui, alors bon, le résultat, un certain doute peut s'installer, si vous voulez. Enfin, un doute, non, c'est pas un doute, ils sont de bonne foi, mais cela dit, le signal est faible et il est bruité. S'il y en a un, il est bruité, très bruité. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas évident de mesurer ces choses-là, et par conséquent, la scrutation extrêmement attentive, pour ne pas dire obsessionnelle, de ces diagrammes de variation séculaire de tel ou tel paramètre, notamment la température, et rien d'autre, est un tout petit peu dangereux, si vous voulez. Il n'y a pas assez d'informations pour en tirer des conclusions. On peut peut-être voir des tendances, bon d'accord, mais pour y voir des explications, c'est beaucoup plus difficile. Le signal est trop petit. Il y a trop de fluctuations dues à des tas de choses diverses dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais qui existent. Et par conséquent, en tirer des conclusions, ce n'est pas facile. Les signaux sont trop faibles et puis l'information, si vous voulez, trop débile. En d'autres termes, cet effort qui est largement pratiqué par les organismes officiels, le GIEC, etc., tous ces chers amis qui se réunissent dans ces endroits paradisiaques, effectivement, passent beaucoup de temps à regarder ces diagrammes. On voit des tendances, on discute sur chaque petit truc, on y voit même des empreintes digitales, l'empreinte de tel ou tel processus, que ce soit le gaz carbonique ou alors les éruptions volcaniques, ça on les voit parce que c'est rapide. D'autres choses, si vous voulez, on imagine beaucoup de choses. Mais c'est comme un test de Rorschach. On y voit, on y trouve ce qu'on veut. Hein. Il suffit de vouloir quelque chose, on le trouve. Bon. Donc, je pense que ce n'est pas possible de faire un diagnostic quelconque sur les mécanismes du climat, explicatif, si vous voulez, encore moins prévisionnel, sur la base simplement des données globales, moyennes. Ce n'est pas possible. En un mot, malheureusement, on ne peut pas faire l'économie d'essayer de comprendre quelque chose. Voilà. Si on ne comprend rien au système, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est impossible. Il faut aller dans un degré de détail suffisamment bas, si vous voulez, dans le système, pour que les signaux commencent à être gros. Parce qu'à petite échelle ou à une période de temps courte, là, on voit des signaux considérables. Il n'y a qu'à se promener dans les rues. On voit le temps qui change constamment, si vous voulez. Donc, dans le détail, si vous voulez, micro-météorologique, les signaux sont énormes. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais bon, là, c'est trop détaillé. Mais néanmoins, plus on fait de moyenne, moins on comprend. Plus c'est lissé, plus l'information a disparu. Et par conséquent, il faut qu'on descende dans le système, dans la mécanique du système à un moment donné, sinon on n'avance pas. Voilà. Ça, c'est une première conclusion auquel je tiens beaucoup. Puisqu'on prend des valeurs moyennes, qui ne dépendent évidemment ni de la longitude, ni de la latitude, ni du temps, puisque c'est des moyennes sur le temps aussi, eh bien, il n'y a plus qu'une seule coordonnée, c'est la coordonnée verticale. Donc nous avons un modèle du système climatique à une seule dimension, une colonne d'air, quoi. Bon, de partant du sol jusqu'au sommet de l'atmosphère. Alors, cette colonne, si vous voulez, comprenant la partie solide ou liquide et puis l'atmosphère au-dessus, il faut la partager en trois couches, en trois sous-systèmes, si vous voulez, ou trois niveaux. D'abord, il y a ce qui est au-dessus, qu'on appelle la stratosphère. La stratosphère, comme on l'indique, est stratifiée, c'est-à-dire qu'elle est stable. Elle n'a pas tendance à faire des remous, si vous voulez, comme notre atmosphère à basse altitude météorologique. Il n'y a pas de nuages convectifs, de cumulonimbus, rien du tout. Ça reste stable, bon, et une bulle d'air qui monterait dans la stratosphère retombe rapidement parce que la stratification est stable, parce que la température remonte avec l'altitude. Bon, du moins, elle est constante. Donc voilà, nous avons un milieu stable qui n'a pas de transport considérable de masse ni d'énergie dû à des mouvements mécaniques. Les seuls transports d'énergie qui existent dans cette région-là sont des transferts radiatifs. C'est-à-dire l'énergie est transportée à travers par des rayonnements du soleil et rayonnement de la Terre, rayonnement infrarouge de la Terre. Deuxièmement, cette couche est séparée de ce qui est en dessous par une transition assez brutale, nette, qu'on appelle la tropopause. Quand on est en avion, ça se voit très bien. En dessous de la tropopause, il y a des nuages, au-dessus, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a pas de nuages dans la stratosphère? C'est parce que la stratosphère ne contient pas d'eau. Pratiquement pas d'eau. Quelques parties par million, c'est-à-dire 100 fois moins que de gaz carbonique, quand même. Bon, encore, je dirais, heureusement que ça ne contient pas d'eau. Parce que si ça contenait de l'eau, s'il y avait une quantité notable d'eau dans la stratosphère, il y a belle lurette qu'on n'aurait plus d'océan, qu'on n'aurait plus d'eau sur la Terre, parce qu'on aurait perdu notre eau sous forme d'atomes d'hydrogène éjectés par les chocs thermiques et qui échappent à la gravitation de la Terre. Donc le fait qu'on soit là pour en parler prouve qu'il n'y a pas d'eau dans la stratosphère. Hein. Bon. Bien, et bien, dans ce milieu-là, où il n'y a pas d'eau, pas de nuages, la composition est bien mélangée, on la connaît, le profil température, on connaît, alors là, on peut appliquer les lois de la physique, les lois fondamentales de la physique pour l'absorption des molécules, etc. Et si on a les moyens, c'est-à-dire un gros ordinateur, on peut même calculer l'effet sur les différents flux de rayonnement assez précisément, de façon précise, ligne par ligne, hein, ligne d'absorption par ligne d'absorption. On peut faire ce calcul et on trouve assez précisément l'impact de la stratosphère sur les rayonnements divers. Vous savez que ça absorbe pas mal de rayonnements ultraviolets du Soleil, ça c'est évident, mais ça absorbe aussi le rayonnement infrarouge de la Terre qui remonte. Donc voilà, il faut noter qu'il y a une stratosphère qui joue le rôle d'une espèce de couvercle, ou si vous préférez, d'une serre. La stratosphère, c'est une serre pour le reste. Voilà. En dessous, il y a cette partie-là. Cette partie-là, c'est le domaine de la météorologie. C'est l'atmosphère où se passent des phénomènes météorologiques. C'est-à-dire une quantité, une énorme agitation, quasiment aléatoire, qui n'arrête pas avec une énergie énorme. L'énergie des ouragans, des orages, même d'un cumulonimbus, sont considérables. Il ne faut pas être en planeur, rentrer dans un cumulonimbus, parce que ça vous éjecte comme ça. Hein, bon. Donc, voici un milieu très actif où l'effet de serre, justement, il y a aussi l'effet de serre dans ce milieu, est énorme. Il y a plein d'hydrogène, plein de vapeur d'eau, plein de nuages qui absorbent, réémettent, etc., le rayonnement. Si vous vous rappelez le petit diagramme que j'ai montré tout à l'heure, le schéma global de bilan total, je vais vous citer les chiffres de tête évidemment. Le flux de rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la Terre est 390 watts par mètre carré en moyenne. Et ce qui s'échappe, c'est 240. Donc, ça fait un effet de serre de 150 watts par mètre carré, énorme. Cet effet de serre est dû principalement à la vapeur d'eau de la troposphère. Mais vous voyez que la contribution de l'eau est de loin la masse la plus grande. Et ça, c'est entièrement dans la troposphère. Bon, vous voyez, l'effet de serre existe dans la troposphère aussi. C'est ça qui fait la différence entre une nuit glaciale quand le ciel est pur et une nuit plutôt humide sans variation de température importante quand le ciel est couvert. Mais ça, c'est dans la troposphère. Tout ça, c'est dans la troposphère. La troposphère est un endroit excessivement complexe où il se passe des tas de choses que l'on ne décrit pas très très bien, si vous voulez, même avec les meilleurs moyens d'observation. Et que l'on modélise encore moins bien. Cet effet de serre dont que l'on mesure, si vous voulez, c'est celui de l'atmosphère entière, c'est-à-dire pratiquement de la troposphère, mais celui qui compte pour les gens qui étudient le changement climatique, c'est celui de la stratosphère. Celui dont on parle, qui remplit les journaux, en tout cas les rapports de différents organismes, c'est celui-là. Et cet effet de serre qu'on appelle le forcing, la perturbation apportée au système, c'est le changement de l'effet de serre de la serre, c'est-à-dire de la stratosphère. La serre sur le reste. C'est une serre pour tout le reste, c'est-à-dire pour l'atmosphère météorologique et aussi pour, évidemment, les océans, etc., et nous-mêmes. C'est la stratosphère qui compte. Et c'est là où on peut calculer très bien tous ces trucs-là. On calcule très bien la contribution du méthane, du gaz carbonique, etc., etc., si vous voulez. Encore, bon. On a évidemment de gros doutes sur les nuages. D'abord, il n'y a pas de nuages, ça provient d'en bas. Ça se passe dans la troposphère, donc on n'y comprend rien. Donc, vous voyez, tout ce qui est bien calculé, ce sont les effets des gaz qui se trouvent dans la stratosphère. Et c'est ça qui fait le forcing, c'est ça qui va perturber le climat à long terme. Du moins, une des causes du climat à long terme. J'ai oublié de parler de la troisième composante. Il y a une troisième composante, évidemment, qui est tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire les parties liquides et solides de la Terre, évidemment, dans lequel il y a la circulation océanique avec la séquestration de la chaleur qu'elle reçoit de l'atmosphère, ou le dégagement, la séquestration, ou le dégagement du gaz carbonique, ou les deux. Bon, il y a évidemment les rivières, le système hydrologique, qui se développe à la surface des continents, avec des rivières, des lacs, des aquifères, etc., etc., et de l'humidité du sol. Et puis, il y a aussi les glaces polaires, les glaciers, etc. Tout ça, c'est un système, ce sont des systèmes excessifs qui partagent une caractéristique, c'est d'être très compliqués. Ils sont tous très compliqués. Les océans, très compliqués, l'hydrologie, c'est affreux. Parlons pas des glaces, c'est vraiment difficile à faire comprendre la thermodynamique des glaces et leur évolution. En plus, elles bougent, elles se circulent, etc. Enfin bon. Mais elles ont en commun une caractéristique, toutes ces parties lourdes, si vous voulez, elles ont en commun d'être lentes. Elles ont toutes des constantes de temps relativement longues. Constantes de temps pour l'océan, surtout si on parle de circulation profonde, c'est 1000 ans quand même. Bon, pour en surface, c'est un peu moins, mais c'est périodique. C'est-à-dire que ça absorbe tous les hivers et ça redégage tous les étés. Bon, donc, non, le contraire, ça dégage pendant l'hiver et ça absorbe pendant l'été. Bon, à part cet effet superficiel qui a fait que 200-300 mètres de l'océan, tout le reste, c'est très long. C'est des évolutions à long terme. Même chose pour l'hydrologie, sauf l'humidité du sol. L'humidité du sol, c'est différent. Elle peut rester qu'une semaine à peu près. Donc ça, c'est plutôt de la météorologie. Ça se réévapore très vite, si vous voulez, ou ça s'infiltre. Mais en dehors de l'humidité du sol, qui est dans les premiers 10 cm ou 50 cm, tout le reste, ça a des constantes de temps importantes. Donc, si on s'intéresse seulement au climat voisin, c'est-à-dire aux quelques années en arrière ou en avant, disons dans les 30 prochaines années, pas plus, alors on peut se permettre des approximations assez brutales en ce qui concerne le comportement de ces composantes lourdes du système climatique. Je ne dirais pas ça si on voulait parler des âges glaciaires, ou du retour du prochain âge glaciaire, ou bien même peut-être du petit âge glaciaire, enfin du petit âge glaciaire européen, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, à court terme, c'est-à-dire quelques dizaines d'années, le réchauffement qu'on nous annonce périodiquement tous les étés, ça, pour calculer ça, pour comprendre ce fait partie-là du phénomène, si vous voulez, eh bien, il suffit d'approximations assez simples de la partie des parties lourdes. Voilà. On peut faire pas mal d'hypothèses simplificatrices. Seulement dans ces conditions-là, hein, encore une fois, pas pour faire de la paléoclimatologie, pas question. En fortiori de la géoclimatologie, hein, enfin géologique, c'est pas du tout ça. Mais pour le réchauffement de planétaire global à court terme, à l'échelle des politiciens, ce qu'on appelle la prospective à long terme, c'est-à-dire 20 ans, eh bien, ça suffit de faire des approximations relativement simplistes de ces parties très complexes, de ces composantes très complexes, mais lourdes et lentes. Donc voilà, vous avez trois composantes. Un moteur, l'atmosphère météorologique, qui inclut des mouvements de toutes sortes, des transports d'énergie, notamment de vapeur d'eau, qui emporte avec elle l'énergie latente de d'évaporation ou de condensation, bon, qui transporte l'énergie dans le système, qui l'absorbe à la surface, qui la dégage dans l'atmosphère à un autre endroit, et qui réalise un cycle thermique. C'est un moteur à vapeur, quoi. Bon, la troposphère, c'est le moteur à vapeur qui fabrique l'énergie mécanique qui entraîne tout le reste. Il faut comprendre ça, quand même. Donc, vous avez un moteur qui agit de façon très active, avec énormément d'énergie, beaucoup d'agitation, en général chaotique. Bon, et puis tout ça, s'arrange pour faire fonctionner le reste. Ça excite les océans par le biais de la friction sur la surface, la friction du vent sur la surface, principalement, il y a aussi un peu la pluie. Bon, ça excite évidemment le système hydrologique, les rivières, les lacs et tout, par le régime des pluies. Ça excite la production ou la diminution de glace de mer ou autre, par les précipitations dans le cas des glaciers, par le gel dans le cas des glaces, et puis évidemment un peu le mouvement par le biais du vent. Si vous... Enfin bon, tout, la source d'énergie là-dedans, c'est toujours l'atmosphère météorologique, pas la stratosphère. Hein. La stratosphère se contente de filtrer, de contrôler les flux du soleil en absorbant l'ultraviolet et de la Terre en empêchant une partie du rayonnement terrestre, du rayonnement infrarouge de la Terre de s'échapper vers l'espace. Voilà. Bon, voilà comment ça marche, grosso modo. Alors c'est sur cette base-là Je vais essayer de donner une idée de ce qu'on peut attendre du réchauffement climatique et de ce qu'on croit y comprendre. Alors bon, nous avons donc ce moteur très compliqué, plein d'énergie, de mouvement, d'agitation. Il n'est pas question de rentrer dedans. Enfin, on ne peut pas expliquer comment ça marche, si vous voulez. Vous direz, on peut faire des modèles, mais je vous expliquerai tout à l'heure que les modèles sont très bien incapables de reproduire la troposphère. Il y a beaucoup trop d'échelles différentes qui sont actives. Bien, et par conséquent, l'idée, c'est évidemment de, pas le calculer, mais de le mesurer, d'observer ce qui se passe dans la troposphère. Seulement, si on veut avoir une image simple, il faut avoir des images globales. Et à l'échelle globale, les incertitudes, je vous ai montré ces petits diagrammes avec des valeurs, des flux, tout ça c'est connu à 2, 3 watts près, hein, c'est pas très précis. Donc l'erreur est grande ou considérable par rapport au forçage que l'on envisage. Donc, pour en tirer des conclusions, si vous voulez, surtout les conclusions quantitatives, ce n'est pas facile. Néanmoins, c'est l'idée, c'est de se mesurer, de voir quelque chose, et puis de se donner une notion de ce qui va apparaître. Bon, alors voilà, l'idée est la suivante, enfin du moins l'idée qui vient à tout le monde, plus ou moins implicitement, c'est que si les signaux annuels globaux, si vous voulez, évoluent très lentement, et de façon, avec un faible signal, si vous voulez, un signal trop sur bruit trop, un rapport signal sur bruit trop bas, par contre, on peut se trouver un analogue. L'idée, c'est de se trouver un analogue de la troposphère globale pour voir comment ça se comporte, en espérant que le signal sera plus grand. Alors, quel est le meilleur analogue, le meilleur modèle, si vous voulez, de la troposphère globale? Je vais vous le dire, c'est la troposphère hémisphérique. C'est la moitié d'une troposphère. Pourquoi la moitié d'une troposphère? Pour commencer, les nuages dans l'hémisphère sud, la vapeur d'eau dans l'hémisphère sud, les ouragans dans l'hémisphère sud, tout ce qui se passe dans l'hémisphère sud, dans la troposphère de l'hémisphère sud, c'est la même chose que dans l'hémisphère nord. Les nuages sont les mêmes, la vapeur d'eau c'est la même, etc. Toute cette physique, si vous voulez, à petite échelle, cette agitation, la cyclogenèse, etc., tout ça c'est pareil. C'est la même mécanique, la même physique, même thermodynamique, premièrement. Deuxièmement, le régime circulation se ressemble beaucoup. De chaque côté de l'équateur, il y a une zone équatoriale. Après, il y a une zone subtropicale qui correspond à de l'air descendant et qui correspond à terre à des déserts. Il y a des déserts au nord et au sud, aux mêmes latitudes à peu près. Puis après, il y a la circulation d'ouest vers l'est, la circulation générale qui nous amène des orages, si vous voyez, des perturbations de Bretagne. Là, ce n'est pas de Bretagne, mais c'est pareil, ça vient de l'ouest. Nous avons une circulation d'ouest, de part et d'autre de l'équateur, symétrique à peu près, puis après il y a les zones polaires. Ça se ressemble quand même pas mal, non? En tout cas pour l'atmosphère. Donc c'est très voisin pour l'atmosphère. Et puis en plus de ça, les phénomènes atmosphériques dont j'ai parlé sont rapides. Ça évolue très vite. Disons, pour un cumulonimbus, une heure. Pour un orage un peu important, mésoscale, enfin d'échelle moyenne, ça fait, une journée et demie. Journée, c'est déjà pas mal, quelques heures à une journée. Un ouragan, c'est 10 jours, même pas. Une grande perturbation à l'échelle d'un océan, c'est aussi 10 jours, maximum. Après, c'est plus prévisible. Tous ces phénomènes sont des phénomènes chaotiques qui s'agitent constamment, qui fournissent beaucoup d'énergie, mais à court terme. Et par conséquent, leur temps de réaction de ces processus est rapide par rapport à tout le reste. Rapide par rapport au réchauffement, enfin du moins au forçage progressivement plus important dû aux effets de serre, ça c'est évident. Par rapport au réchauffement climatique, ces réactions, ce temps de réaction est très court, très très court. Même pour quelque chose de assez brutal, comme une éruption volcanique qui distribue une masse d'aérosols dans la stratosphère, qui a duré 2 ans, en 2 ans, tous ces processus ont eu le temps de s'ajuster, vous pensez bien, très bien. Et même sur 6 mois, même de l'hiver à l'été, en 6 mois, tous ces processus sont à peu près ont réagi. Et puis le nouveau bilan est équilibré. Si vous avez un bilan radiatif, c'est 3 mois. Par conséquent, si on prend 3 mois d'hiver, 3 mois d'été, on a à peu près des états stationnaires déjà. Ces ajustements atmosphériques sont extrêmement chaotiques, compliqués, etc., mais rapides. Et par conséquent, vu que les phénomènes sont grosso modo les mêmes au nord et au sud, et qu'ils ont largement le temps de s'ajuster en 6 mois, c'est-à-dire dans la période de la demi-période du cycle saisonnier, le cycle annuel, eh bien, il va de soi que le type de réponse que l'on obtient dans un cas, quand les variations saisonnières, ne peut être qu'à peu près le même que la réponse qu'on aura pour un réchauffement global. Et d'ailleurs, si vous ne le croyez pas, regardez donc la réalité physique. Les réalités physiques, ce n'est pas un réchauffement global. Moi, je n'ai jamais vu le réchauffement global, jamais. Jamais senti, en tout cas. Par contre, on voit très bien la différence entre l'été et l'hiver. Enfin, l'hiver et l'été, n'est-ce pas ? La réalité physique, c'est le cycle saisonnier de l'hiver à l'été. Ça, c'est la réalité fondamentale de l'atmosphère. Après, il y a des perturbations. Et le réchauffement global, enfin le forçage progressif, c'est une perturbation du phénomène réel qui est le cycle saisonnier. C'est pour ça que la réponse est la même, si vous voulez. C'est le même phénomène. C'est celui-là qui donne la physique, si vous voulez, que l'on voit, qu'on peut mesurer. Alors, bien entendu, si on regarde le cycle saisonnier, là, on voit très bien. Alors, bon, quelle réponse peut-on attendre un forçage radiatif, c'est-à-dire un changement du bilan d'énergie de la planète? Alors, on pense que si l'absorption du rayonnement infrarouge de la Terre par la CERT stratosphérique augmente un peu, il va falloir compenser. Alors, on pourrait compenser en changeant l'albédo de la Terre, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire absorbée. Mais il se trouve que l'albédo change peu, c'est-à-dire que l'albédo est peu sensible à la température, c'est-à-dire elle change, mais pas tellement entre l'été et l'hiver, si vous voulez, et par conséquent, on est à peu près convaincu, mais encore faudrait-il le prouver, c'est pas évident, que l'ajustement des nuages, si vous voyez, ne change pas de façon considérable l'albédo, c'est-à-dire ça se passe pas du côté de l'énergie solaire. L'ajustement à l'augmentation d'activité, enfin du moins d'efficacité de l'absorption stratosphérique, ne se fait pas du côté de l'énergie solaire, du rayonnement solaire. Ça se fait du côté infrarouge. Et effectivement, le rayonnement infrarouge est très sensible à la température. Donc, si on veut augmenter un petit peu le rayonnement infrarouge qui sort de la troposphère, à la tropopause, quoi, qui émerge, et qui va être absorbé par la stratosphère, si on veut augmenter un petit peu ce rayonnement de façon à compenser l'absorption supplémentaire de 2 watts, hein, etc., produite par la stratosphère, eh bien, à ce moment-là, il suffit de chauffer un peu. Chauffer un petit peu, ça augmente le rayonnement qui sort, évidemment. La troposphère, c'est un objet, si vous voulez, dont la température est liée étroitement à la température du sol. Bon, si on chauffe un petit peu le sol ou la troposphère, ça augmente le rayonnement infrarouge qui s'échappe de la troposphère, c'est-à-dire au niveau de la tropopause. Et on peut chauffer juste de ce qu'il faut pour augmenter le rayonnement qui sort, là, de la quantité qui va être réabsorbée en plus par la stratosphère. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, si la stratosphère absorbe plus, il faut émettre un peu plus pour compenser et que le résultat soit le même qu'avant. Il faut que le rayonnement infrarouge qui s'échappe effectivement de l'ensemble des deux, hein, troposphère plus stratosphère, il faut que ça soit le même puisqu'on absorbe la même quantité de rayonnement solaire, il faut émettre la même quantité de rayonnement infrarouge dans l'espace. Bon, voilà, tout simplement. Donc, il existe une relation entre la température de la troposphère, ou du sol, comme vous voudrez, c'est pareil, enfin, et puis la quantité de rayonnement infrarouge qui sort de la tropopause. Est-ce qu'on peut la connaître, cette relation ? Dans le cas du rayonnement, du chauffage global moyen annuel, non, parce que les signaux sont trop petits. Je vais montrer que les flux en question, la détermination des flux, donc, eh bien ça, on est bien incapable de le mesurer à la précision qu'il faudrait. Donc, on ne peut pas le mesurer. Mais par contre, si on prend un hémisphère, alors là, on voit le cycle saisonnier, et alors on voit une variation considérable, énorme, du flux de rayonnement, de la température au sol, et du flux de rayonnement. On prend l'hémisphère nord. Entre l'été et l'hiver, la température moyenne de l'hémisphère nord augmente de 11 degrés. Et le flux qui s'échappe de la troposphère augmente de 21 watts par mètre carré. Puis on peut prendre l'hémisphère sud. Alors l'hémisphère sud, c'est surtout de l'eau. La différence entre l'hiver et l'été, c'est seulement 5 degrés. Et la quantité de variation du flux qui s'en échappe, c'est de l'ordre de 10 watts par mètre carré. Pardon. Alors voilà, 11 degrés, 21 watts, 5 degrés, 10 watts. C'est pratiquement une ligne droite. En d'autres termes, la réponse climatique, si j'ose dire, de l'hémisphère nord au cyclage de l'insolation solaire, c'est une variation de l'énergie reçue par le système, est de l'ordre de 0,5 degrés par watt par mètre carré. Et, pour être précis, 0,56. Et pour l'hémisphère sud, qui chauffe de 5 degrés, de 5 degrés Celsius, eh bien, cet rapport, c'est 0,57. C'est pareil, quoi. Ou l'inverse. Je ne me rappelle plus. Bon. Enfin, peu importe. C'est le même rapport. C'est-à-dire que la sensibilité de l'atmosphère, la troposphère de l'hémisphère sud et de la troposphère de l'hémisphère nord est la même. Ce qui veut dire qu'au niveau de forçage de, disons, 10 watts, hein, 20 watts plutôt, à un niveau de forçage de 20 watts, qui est dû à un changement d'insolation périodique, bah, la réponse est encore dans le domaine linéaire, quoi. C'est pas très gros, 20 watts par rapport aux flux totaux, et par conséquent, la réponse globale amalgamée de tout ça, de ce compliqué, est encore linéaire. Et puisque c'est encore linéaire, alors a fortiori, la réponse à un forçage de 2 watts est linéaire aussi, bien sûr. Alors si on suit cette ligne de raisonnement, on se dit une sensibilité de 0,5 degrés par watt, le forçage actuel dû au gaz carbonique. Donc, si... on admet que l'effet des gaz à effet de serre qui se sont accumulés depuis le début de l'ère industrielle, c'est de les 2 watts, 2 watts et demi dans la stratosphère, hein, eh bien, on attend un réchauffement de l'ordre d'un degré. Or, le réchauffement qu'on a observé depuis une centaine d'années ou 150 ans, c'est de l'ordre d'un degré. Donc, on a là une source de changement climatique qui est largement suffisante, même un peu trop forte, pour expliquer ce qu'on observe. Bien entendu, ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui perturbent. Mais le noyau du problème, si vous voyez, c'est quand même ce réchauffement dû à cette quantité de gaz carbonique que l'on connaît. On sait que la concentration de gaz carbonique a changé. On sait de combien. On peut le mesurer très bien. On sait ce que ça fait dans la stratosphère. On connaît la quantité de gaz carbonique présente dans la stratosphère. On peut calculer son absorption très bien. Ça fait 2,5 watts. Bon, d'accord, enfin avec le méthane. Et par conséquent, ça nous donne un ordre de grandeur de l'effet de ce réchauffement dû au gaz à effet de serre. Et cet ordre de grandeur, c'est 1 degré jusqu'à présent. Alors, sans compter les phénomènes de couplage avec l'océan et autres réactions avec la glace de mer, etc., etc., tout ce qu'on appelle des feedbacks positifs dans ces cas-là, ce qui veut dire que ça a tendance à augmenter la réponse. Puis ça ne tient pas compte non plus l'effet de tampon de l'océan. L'océan absorbe de la chaleur, n'est-ce pas? Et ça a pour effet principal de retarder la manifestation. Alors donc, ça fait un peu plus petit parce que c'est retardé par l'océan. Donc si on prend en compte tout ça, c'est très raisonnable, on a des bons ordres de grandeur. Donc sur cette base-là, qui n'est pas miraculeuse, on a une petite idée de l'ordre de grandeur du réchauffement qu'on a déjà observé et qu'on va observer dans le futur. Voilà. Alors maintenant, que penser du reste? Alors, premièrement, il faut savoir que tous les modèles, enfin, d'abord, les modèles numériques de climat, je voudrais dire tout de suite, sont absolument essentiels. Car sans modèle, on ne peut rien faire. Il faut vraiment, si on veut comprendre quelque chose de façon quantitative, il nous faut des modèles. Le problème, c'est que les modèles ne représentent pas la réalité. Ils font des moyennes sur des volumes, enfin des surfaces de l'ordre de 10 000 km² minimum, ou 100 000 km², et par conséquent, bien entendu, dans un bloc de fluide de cette ampleur, on ne peut pas représenter les détails. Donc, au lieu de représenter les détails, ils utilisent des formules empiriques, pour représenter plus ou moins l'effet sur les différents flux. Mais alors, ces formules empiriques, elles sont des coefficients arbitraires qu'il faut ajuster. Effectivement, ils les ajustent. Mais comment est-ce qu'ils les ajustent? Ben, ils les ajustent plus ou moins en essayant de reproduire le cycle saisonnier. Et comme on fait ça depuis tout le temps, depuis toujours, eh bien, on a toujours le même résultat. En effet, il y a 30 ans, les premiers modèles, les plus simples, vraiment, du primitif extrêmement simpliste, donnaient exactement les mêmes résultats que maintenant. La fourchette, la fameuse fourchette de 1,5 à 4,5 degrés, qui est publiée partout, elle existait il y a 30 ans. C'était la même fourchette. Parce que c'est le même cycle saisonnier. Donc, implicitement, ils ont tous fait la même chose que moi, ce que j'ai fait devant vous, là, avec les mains. Eux, ils le font avec des ordinateurs et puis des valeurs numériques. Mais c'est la même chose. Et résultat, ils ont le même résultat. Alors, ça veut dire que leurs prédictions de réchauffement ne sont pas mauvaises, parce qu'elles sont fondées sur l'observation empirique, si vous voulez, mais alors à l'échelle qu'il faut. Malheureusement, ça ne nous renseigne pas beaucoup sur le reste. Tout ce qui dépend en détail de phénomènes météorologiques intenses et localisés, comme les pluies en particulier, eh bien, est plus ou moins massacré dans les modèles. Et par conséquent, toutes les prédictions des conséquences de l'impact du réchauffement global sur l'environnement sont plus ou moins ratées. Pour vous donner une idée, prenons un terrain, un bout de terrain, une région, sur lequel il pleut une certaine quantité de pluie en un mois. Bon. Si cette pluie tombe tous les jours, c'est-à-dire est répartie tous les jours un petit peu, elle s'infiltre un petit peu, et quand le soleil réapparaît, elle s'évapore. Donc, la pluie se réévapore, il n'y a rien dans les rivières. Enfin, il n'y a pas de ruissellement, rien dans les rivières. Si au contraire, ça tombe d'un seul coup en un ou deux gros événements sporadiques, à ce moment-là, ça fait une espèce de petite inondation locale, ça ruisselle et ça remplit les rivières. Donc, suivant la distribution du temps, le temps dans ce cas-là, différente, pour la même quantité moyenne, on obtient des résultats tout à fait différents. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos modèles. C'est-à-dire que, d'accord, ils font des moyennes, mais le résultat qu'ils obtiennent, si vous voulez, n'a aucune raison d'être vraiment le résultat que l'on souhaite de la réalité, parce qu'il ne représente pas la réalité. On lit dans les documents officiels, les modèles climatiques découlent des lois de la physique. Je le lis, je le cite parce que je l'ai lu. Mais ce n'est pas vrai. Les modèles climatiques ne sont pas fondés sur les lois de la physique. Les lois de la physique sont des lois microscopiques. Et le fait que les modèles en question aient un hiatus entre ce qu'ils représentent effectivement, c'est-à-dire des moyennes à l'échelle d'un bloc de 100 par 100 km ou plus, et puis la réalité détaillée locale, si vous voulez, ce hiatus fait qu'il y a des connexions. Ces lois de la physique ne s'appliquent plus dans les modèles. Alors, c'est vrai que les modélisateurs aiment bien croire que leurs modèles sont fondés sur les lois de la physique. Parce que si c'était vrai, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de vérifier leurs formules. Leurs formules sont automatiquement bonnes puisqu'elles sont appuyées sur la loi de la physique. Mais malheureusement, elles ne le sont pas. C'est là où c'est le pied d'argile du système, si vous voulez. Le gros danger, c'est que ces modèles ne sont pas vraiment reliés de façon solide, appuyés, fondés sur les lois de la physique. Donc il faut aller vérifier les lois empiriques. Il faut aller les regarder de près. Et ça, c'est malheureusement très difficile. Parce que si vous prenez la moyenne sur 100 par 100 km d'une série de nuages convectifs, et puis vous faites la moyenne, vous ne voyez plus rien du tout. L'air qui monte est très humide, celui qui descend est plus sec, on fait la moyenne, on trouve un truc intermédiaire, c'est tout. Mais on ne trouve rien du détail, du fonctionnement mécanique du système. Donc, on ne peut pas prédire les événements. Enfin, ces formules sont entachées de doutes. Et ça, malheureusement, je crains que la voie sur laquelle s'est engagée la recherche climatique actuelle ne conduise pas à une résolution de ces problèmes. Parce que les modèles climatiques n'ont pas le moyen d'exploiter les observations qu'on peut faire de phénomènes de petite échelle. On peut très bien aller observer un nuage cumulus ou un ouragan et amener des tas d'informations, mais un modèle climatique ne peut pas comparer cette information expérimentale à la réalité ou à l'objet qui est prédit par le modèle. Parce que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même météorologie, ce n'est pas la même situation. Et par conséquent, un modèle climatique qui représente une histoire théorique de la planète n'a aucune chance de représenter un ouragan particulier qu'on aurait été mesuré. Ces modèles climatiques n'ont pas le moyen d'exploiter cette information. Les météos, oui. Les météorologistes exploitent cette observation, cette information, l'injectent dans les modèles, on appelle ça l'assimilation des données, et ça s'appelle l'initialisation d'une prévision déterministe. Si on veut comparer le résultat de modèle à des phénomènes réels, contingents, qui viennent de se produire. Il faut un modèle météorologique, un modèle qui absorbe les données instantanément, si vous voulez, et qui initialise une prévision. Alors là, on peut voir si ça donne la bonne pluie ou pas. On peut vérifier le lendemain s'il a plu ou pas. Mais autrement, non. Et par conséquent, actuellement, les modèles, la science climatique, théorique, modèle, si vous voulez, est engagée sur une voie sans issue. On ne progresse plus depuis au moins 10 ans. Donc voilà la situation de la recherche, si je me permets de le dire. Nous avons de bonnes idées sur comment ça marche. On a pas mal d'observations, on a plein d'ingénieurs, de techniciens, même de scientifiques qui font des observations, mais on n'arrive pas à passer la barrière. la barrière qui a été érigée, si vous voulez, entre la science du climat, je parle de mes collègues américains surtout, les scientifiques du climat d'un côté, et les ingénieurs ou autres techniciens de la météorologie de l'autre. Et entre les deux, ça ne passe pas, pour des tas de raisons techniques, si vous voulez, plus philosophiques. Et par conséquent, tant que ça ne passe pas, eh bien, on a un vrai problème. Et ce vrai problème, on ne va pas le résoudre en 5 minutes. Merci beaucoup.
C'était Pierre Morel, fondateur du laboratoire de météorologie dynamique au CNRS, ancien secrétaire du programme mondial de recherche sur le climat. Il s'exprimait sur le réchauffement planétaire et la science du climat. Restez à l'écoute de nos retransmissions des conférences du Bureau des Longitudes. Vous les trouverez sur notre site internet canalacademy.com dans les émissions en colloque, rubrique science. Merci de votre écoute et à bientôt.